Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles, eh bien dans le livre des Actes des apôtres. Aujourd'hui, c'est ce jour de célébration de la Pentecôte. C'est ce moment où nous reconnaissons aussi ce que le Seigneur a accompli d'extraordinaire avec l'établissement de la première, toute première église, hein, l'église naissante à Jérusalem. Et c'est vrai que même si, hein, pour beaucoup de nos concitoyens, Pentecôte, ça rime plutôt avec entrecôte et barbecue, pour nous, ça revêt vraiment quelque chose de bien plus grand que cela, n'est-ce pas? Bien plus grand que cela. Pour nous, chrétiens, cette fête représente eh bien, un événement marquant. Ça représente l'accomplissement des promesses de Dieu pour l'humanité, pour ses enfants. Et peut-être, bon, certains vous le savez, d'autres, ça vous échappe peut-être. Donc, le mot Pentecôte, ça vient du grec, hein, c'est un mot qui signifie 50 en grec. Et alors, pourquoi ce mot 50? Parce que, en fait, eh bien, ça désigne cette fête des semaines, hein, dans la célébration, hein, dans le judaïsme, qui venait justement donc 50 jours hein, qui se sont écoulés hein, après l'offrande des prémices de la Pâque. Donc 50 jours après la Pâque, donc le mot Pentecôte, 50, eh bien on a cette fête des semaines à Jérusalem. Et c'est ça dont il est question hein, dans le livre des Actes, dans les premiers chapitres, chapitres 1 et 2, où nous avons un événement extraordinaire qui va se produire à ce moment-là. Alors pour nous, hein, bien sûr, on a cette perspective sur ce jour de Pentecôte qui reste quand même importante parce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne pas simplement sur la grâce de Dieu et l'accomplissement de ses promesses, elle nous enseigne également sur ce qu'est l'Église. Elle nous enseigne sur ben, voilà, comment est-ce que cette première Église a agi, comment est-ce qu'elle a vécu, quelles étaient ses caractéristiques et comment est-ce que nous aujourd'hui, même si nous vivons au XXIe siècle, comment est-ce que nous pouvons eh bien, en tirer les enseignements pour nous hein, et voir ce que nous, en tant qu'Église, eh bien, nous pouvons également suivre ou parfois même devoir changer, rectifier hein, dans notre Église. Parce que oui, ce jour-là de Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. L'Église, là aussi, c'est un mot qui vient du grec, c'est le mot ecclésia en grec, et c'est un terme qui désigne en fait une assemblée, un regroupement de personnes. Hein, c'était un terme qui était utilisé dans la Grèce antique pour lorsqu'il y avait des décisions à prendre pour une ville, etc. Donc on faisait appel à une assemblée, et c'était ce mot-là, ecclésia. Donc c'est une assemblée hein, qui est constituée, une assemblée qui est organisée, c'est une assemblée de personnes qui sont appelées hors de leur activité habituelle, hors de leur activité quotidienne, à se réunir pour s'occuper ben, des affaires publiques hein, dans la Grèce antique. Mais pour l'Église de Christ, ce terme, il faut bien comprendre, c'est être appelé hors de quelque chose. L'Église de Jésus-Christ, elle est constituée de personnes qui ont été appelées hors du monde, hors du péché, hors des ténèbres. C'est un regroupement de personnes donc qui reconnaissent en Jésus-Christ, eh bien, Dieu le Fils, qui reconnaissent en Jésus-Christ celui qui a été crucifié, celui qui a été enterré, celui qui est ressuscité des morts, celui en qui, eh bien, nous avons la vie, celui en qui nous avons la réconciliation avec Dieu. Et donc, cette Église du Nouveau Testament, qui, là, à ce moment de la Pentecôte, eh bien, est en train de naître, eh bien, c'est ça, c'est une assemblée constituée de croyants appelés hors du monde. Cette Église, c'est celle de Christ. N'en déplaise aux Mormons, l'Église de Jésus-Christ, pour eux, c'est des saints des derniers jours, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est celle que nous voyons dans les Écritures. L'Église de Jésus-Christ, c'est celle que lui a créée. Il en est le créateur, il est celui qui avait promis cela, il est celui qui avait proclamé, je bâtirai mon Église, elle lui appartient. Hein, ça, c'est pas, nous appartenons à l'Église, mais l'Église ne nous appartient pas. L'Église, et on avait vu hein, en long et en large, là, il y a plusieurs temps de cela, hein, que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Hein, l'Église, c'est un organisme vivant, c'est quelque chose que Dieu a créé pour notre bénéfice et pour sa gloire également. Et donc, cette Église, hein, on avait vu des passages, par exemple, dans Éphésiens 2 hein, et 4 également, mais Éphésiens 2, laisse-moi juste relire ce passage pour rappeler ces choses-là. Éphésiens 2, versets 19 à 21, « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, donc appelés hors d'eux, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et alors, dans ce livre des Actes, hein, chapitre 1er, chapitre 2, eh bien, on a eh bien, le récit de comment cette Église est née. Le livre des Actes des Apôtres relate en fait l'histoire de cette Église. Elle nous montre comment cette Église elle est née, comment elle a grandi, comment l'Évangile s'est propagé, comment d'autres Églises sont nées à différents endroits, et de voir la grâce de Dieu eh bien, être partagée avec tant de gens qui vont comprendre l'Évangile, comprendre qui est Jésus-Christ et venir à lui. Et donc, livre des Actes, on l'avait vu quand on a parlé de l'ascension, hein, on a ce récit de l'ascension de Christ au chapitre 1er, mais aussi avec cela une attribution de mission hein, pour les disciples. Actes chapitre 1er, verset 8, hein, vous serez mes témoins hein, Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et vous recevrez une puissance, hein, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et donc, on a cette mission, on a cette promesse du Saint-Esprit, et on retrouve donc les disciples eh bien, à Jérusalem qui se retrouvent pour prier, une église qui est en train de naître, un groupe qui est uni dans la prière, persévère dans la prière. Et au chapitre 2, donc, on a cet événement particulier qui se produit, et on va lire déjà quelques versets. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix, et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. » Et donc là, on voit l'apôtre Pierre qui va, de manière magistrale, eh bien, expliquer les événements qui se sont produits eh bien, 50 jours auparavant. Expliquer qui est Jésus. Expliquer qu'il est le Messie. Expliquer hein, que c'est ce Messie hein, que le peuple juif a crucifié. Et là, il termine son discours, et je saute ces choses, on verra un peu plus tard, mais au verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, on a une réaction extraordinaire. On a une réaction extraordinaire, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Que ferons-nous ? Et là, la réponse de Pierre, elle est claire, elle est précise, c'est « Repentez-vous, soyez baptisés Hein, c'est l'appel à venir à Christ, à se convertir. Et là, ce sont des milliers de personnes qui vont répondre favorablement à cet appel, qui vont se faire baptiser et qui vont être ajoutées à l'Église. Et comme je disais un peu tout à l'heure, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est regarder à ce passage et de brosser un peu le portrait, hein, de cette toute première Église. Hein, je crois qu'une des premières choses que l'on fait lorsque on a un enfant qui naît, c'est bien sûr, on va prévenir la famille, etc. Mais on va prendre des photos, n'est-ce pas? On va prendre des photos du bébé pour pouvoir montrer ça aux autres, pouvoir partager cela avec les autres. Et je crois que c'est important pour nous de regarder à cette photo que nous avons ici dans le livre des Actes, de voir ce portrait, hein, que nous donne Luc concernant cette naissance de la première Église et de voir comment est-ce que cette Église qui regroupait quelques personnes, personnes qui ont été fidèles, qui ont persévéré dans la prière, et de voir, eh bien, ces milliers de personnes venir à Christ et de voir cette église à Jérusalem naître. La première chose qu'il faut noter, si nous voulons nous également avoir, eh bien, je vais pas dire ce même effet et ces mêmes résultats, mais avoir cette même fidélité. Il faut comprendre que cette église de Jérusalem, avant toute chose, elle reposait sur la puissance de l'Esprit-Saint. Les apôtres, les disciples qui les accompagnaient, hein, étaient réunis et ils attendaient l'accomplissement de la promesse de Christ concernant la venue, hein, de ce consolateur, de l'Esprit-Saint, qui allait venir, qui allait être cette puissance pour eux, pour qu'ils puissent témoigner de Christ, pour qu'ils puissent proclamer avec courage, eh bien, l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, cette puissance qui a donné vie à cette Église, c'est la même qui l'anime, c'est la même qui l'énergise, c'est la même qui donne le courage. Cette force divine, cependant, ne se limite pas à une simple puissance. Certains croient que l'Esprit-Saint n'est qu'une puissance, parce que voilà, Luc, il utilise ce terme, hein, des paroles de Christ, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Mais la puissance de l'Église, l'Esprit-Saint, n'est pas qu'une force. Elle est une personne. Une personne divine, distincte de Dieu le Père, de Dieu le Fils, tout en étant égale. Parce que oui, on retient Actes 1:8, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins, etc. Dans Matthieu, le Seigneur donne aussi, hein, comme mission à ses apôtres, hein, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que une force aurait un nom? Pourquoi une simple force serait associée au Père et au Fils, mais serait quelque chose de complètement distinct, ne serait simplement qu'une force? Non, bien au contraire, bien plus qu'une force, hein, l'Esprit Saint est une personne. Quand on réfléchit à ce qu'est une personne, on sait que, ben, une personne, elle ressent des émotions, n'est-ce pas? Éphésiens 4, 30, l'apôtre Paul donne ce commandement aux chrétiens: n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous pourrions attrister une force? Une force ne ressent rien. Une personne ressent. C'est une personne qui possède une volonté qui lui est propre. C'est une personne qui agit. Dans son épître aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 11, Paul il dit ceci: nous avons un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant donc les dons spirituels à chacun en particulier comme il veut. Donc, c'est l'esprit qui opère, qui agit, c'est l'esprit qui décide. Seule une personne peut agir et décider. Mais c'est aussi une personne qui s'exprime, n'est-ce pas? Hein, le propre d'une personne, c'est cette capacité aussi à exprimer ses pensées, exprimer sa volonté. Un peu plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 13, au verset 2, justement, là on voit le Saint-Esprit s'exprimer. Hein, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Comment est-ce qu'une force pourrait communiquer? Comment est-ce qu'une force pourrait exprimer quoi que ce soit? Hein, l'Esprit Saint donc dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors vous conviendrez avec moi, hein, qu'il ne peut pas s'agir d'une simple puissance limitée à n'être qu'une énergie spirituelle. Non, c'est une personne. Et cette puissance de l'Esprit Saint, de cette personne divine, c'est la promesse que Christ avait faite pour son Église, afin qu'elle puisse accomplir, eh bien, cette grande mission que Christ a confiée, la plus grande mission de l'humanité. L'Église est appelée donc à partager l'Évangile. Et en partageant l'Évangile à la manière, eh bien, dont nos ancêtres spirituels, hein, ici les chrétiens, les premiers chrétiens, cette première Église de Jérusalem, on les voit à travers le livre des Actes bouleverser le monde, n'est-ce pas? En ce jour de Pentecôte, l'histoire du monde a changé, a été bouleversée. Et ces chrétiens à Jérusalem n'ont pas accompli cela par des différents programmes, etc. Ils n'ont pas fait cela avec des programmes sociaux, hein, financés par des appels de générosité, par des positions politiques. Ils n'ont pas bouleversé le monde par la politique. Ils n'ont pas bouleversé le monde par une prise de pouvoir. Non, ils ont bouleversé le monde en prêchant en toute simplicité, mais avec la puissance de l'Esprit Saint, l'Évangile de Jésus-Christ. L'Église est appelée à bouleverser le monde de cette manière-là, à être une lumière visible et non pas une lumière cachée, une lumière qui diffuse sa clarté, qui émane, une lumière qui ne va pas se confondre avec les ténèbres non plus. C'est une lumière qui est là pour guider vers la vie et non pas vers la perdition. Cette Église que nous voyons naître dans Actes chapitre 2, celle qui est décrite dans ce livre et dans le reste du Nouveau Testament, elle ne disposait pas de ce que beaucoup d'Églises estiment aujourd'hui comme étant nécessaire, indispensable au développement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas avec un beau bâtiment qu'ils ont bouleversé le monde. Ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec des liens avec les pouvoirs civils, ce n'est pas en se posant comme des défenseurs populaires, ce n'est pas en ayant des vedettes et en mettant ces vedettes en avant pour dire c'est eux qui nous représentent. Non. Cette Église que nous voyons dans le Nouveau Testament a bouleversé le monde par la puissance de l'Esprit Saint. Cette Église fut une lumière qui gagna de nombreuses âmes à Christ et qui, par la suite, va participer à la propagation de l'Évangile à travers le monde connu. Un monde qui, quand on connaît l'histoire de cette époque-là, un monde qui était, oui, moralement dépravé, qui était notoirement païen, qui était ouvertement hostile au christianisme, un monde qui refait surface aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas beaucoup de différence, finalement, entre l'environnement dans lequel cette Église est née et l'environnement dans lequel nous vivons notre foi. Ce christianisme du premier siècle a bouleversé le monde, a bouleversé, renversé le paganisme, l'impérialisme, l'immoralité, tout ce qui était la force et la puissance de l'être humain à cette époque-là, ces empires grecs, romains, etc. Le christianisme a bouleversé tout cela. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que notre mission a changé? Non. Je crois que malheureusement, beaucoup d'églises se lancent dans divers programmes pour éviter de remplir cette mission unique que Christ a confiée à son Église. On peut se poser la question, pourquoi le christianisme que nous voyons dans le livre des Actes, pourquoi cette Église que nous voyons dans le livre des Actes a eu un tel impact? Alors que nous, aujourd'hui, avec tous les moyens de communication que nous avons, les moyens de pouvoir propager l'Évangile, nous ne parvenons pas à de tels résultats. On ne fait qu'effleurer un peu la surface. Je crois que, justement, parce que toutes les activités de cette Église du premier siècle, encore une fois, reposaient sur la puissance de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas des personnes qui se disaient « moi j'ai la capacité de faire ceci, donc je vais le faire. Oh, tiens, moi, je suis doué dans ce domaine-là et je vais le faire. Non. On a tout d'abord des chrétiens qui, un, sont pas restés inactifs. Hein, pourquoi vous regardez le ciel? Hein, les anges lui disent, ah, retournez à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à Jérusalem. Et dans l'attente de l'Esprit-Saint, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent unis dans la prière. Jusqu'à ce que l'Esprit-Saint vienne. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose d'unique, hein, que nous voyons dans le Nouveau Testament. Qui est propre et particulier à ce groupe. Mais voilà. C'est cette puissance-là qui a fait en sorte que l'évangile puisse être prêché. Parce que, oui, quand on avait cette fête des semaines à Jérusalem, il y avait hein, des juifs qui venaient d'un peu partout dans le monde. Il y avait des juifs hein, prosélytes qui étaient venus également. Et voilà que tout à coup, ils entendent de la part de ceux qui savent être, ben, ce sont des juifs de Jérusalem qui sont d'ici, mais comment ça se fait qu'on les entend parler des merveilles de Dieu dans notre langue maternelle? Comment est-ce que c'est possible? Et là, donc Pierre va saisir ce moment-là pour expliquer ce qui se passe. Pour expliquer que ce qu'ils viennent de voir, eh bien, c'est la puissance de l'Esprit-Saint. Puissance de cet Esprit-Saint que Christ avait promis. Et il va montrer et établir qui est Jésus, à savoir ce Messie qui a été rejeté par Israël, qui a été crucifié et qui est ressuscité. Cette puissance aujourd'hui, elle est toujours là. L'Esprit Saint est toujours présent. Mais je crois que malheureusement, beaucoup d'entre nous limitons eh bien, l'accès à l'Esprit dans notre vie. Nous éteignons l'Esprit. Nous ne cherchons pas forcément à laisser l'Esprit-Saint eh bien, changer notre vie, nous convaincre, nous interpeller sur ce que nous avons besoin de changer pour nous rendre conformes à Christ. Tant que nous ne sommes pas soumis à Dieu, tant que nous ne sommes pas soumis à le laisser eh bien, nous transformer, à le laisser agir dans notre vie, ben, il est évident que cette puissance de l'Esprit-Saint, ben, on va pas en bénéficier. On va pas en bénéficier. La vraie puissance, donc celle qui vient du Saint-Esprit, elle est toujours disponible. Et mieux nous comprenons hein, le ministère et l'œuvre du Saint-Esprit tel que nous le voyons dans les Écritures, eh bien mieux nous allons comprendre et mieux nous allons être disposés également à reposer sur sa puissance. Et non plus sur la nôtre. Mais quelle est donc cette particularité de l'Église de Jérusalem, celle qui vient de naître à ce moment-là? Un, comme j'ai dit, les disciples ne sont pas restés inactifs. Ils étaient unis, hein, tous d'un commun accord, persévérés dans la prière. Hein, l'impact qu'a eu ce groupe de personnes du premier siècle, l'impact de cette Église de Jérusalem, c'est lié à l'obéissance, c'est lié à la soumission, c'est lié à l'unité en Christ, c'est lié à la persévérance dans la prière et dans la patience d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça ne change pas pour nous. Ce que nous devrions être en tant qu'Église ne change pas. Nous sommes appelés à être obéissants, soumis à Christ, soumis à l'Esprit-Saint, soumis à Dieu, appelés à être unis autour de la doctrine, de la parole, unis dans la persévérance, dans la prière. Vous noterez que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était d'être persévérants dans la prière. Ils n'étaient pas inactifs. Ils étaient pleinement actifs spirituellement. Mais nous voyons également ici leur conscience à vouloir suivre Christ, à vouloir honorer ce qu'il avait déjà établi. Bon, déjà au chapitre 1er, hein, on a ce récit par rapport à hein, il faut que quelqu'un remplace Judas. Et comment ils vont faire? Eh bien, on a Pierre qui prend cette initiative. Hein, il y a un processus de sélection qui va dresser les exigences hein, par rapport à celui qui peut remplir cette fonction d'apôtre de Christ. Et notez bien que c'est pas eux qui ont décidé qui ça allait être. Ils ont laissé ça entre les mains de Dieu. Ils ont dit, c'est toi qui désignes, c'est toi qui choisis. Il tire au sort et on a Matthias, donc il va prendre la place de Judas en tant qu'apôtre de Christ. Et juste pour rappeler, c'est des choses qu'on a déjà vues hein, dans le passé, qu'il y a cette distinction à comprendre entre apôtres de Christ, choisis par Christ, hein, ceux qui ont été là depuis le début, qui ont été témoins de la résurrection de Christ, parce que ça, c'est les exigences que Pierre, il nomme hein, dans l'acte premier. Et du terme apôtre qui signifie être envoyé, n'est-ce pas? Donc une église peut envoyer, par exemple, certains frères pour accomplir une mission et pour dire, bah, ce sont nos apôtres, on les a choisis pour être envoyés hein, pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc il y a une grosse distinction à faire entre apôtres de Christ, ces apôtres hein, qui sont ceux qui sont mentionnés dans Éphésiens, hein, ce fondement pour l'église, ce sont ces apôtres-là. Pas un apôtre envoyé d'une église. Et il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, et je crois que le mieux, c'est pour les chrétiens de ne pas employer ce terme d'apôtre hein, pour enlever cette confusion-là. Parce qu'après, il y a des gens qui disent, « Ah, lui, c'est un apôtre de Christ avec la même autorité que ces apôtres de Christ que nous voyons dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles et dans Actes. » Ce n'est pas la même chose. Mais voilà, donc on les voit donc se préparer. On les voit vouloir continuer ce que Christ a commencé, et ça commence avec cette désignation de Matthias comme apôtre. Et après cela, donc, l'Esprit Saint vient. Et il vient d'une manière assez spectaculaire, assez extraordinaire, mais ce n'est pas un événement qui fait, comme on dit, jurisprudence. C'est pas parce que les disciples, les apôtres, à ce moment-là, ont reçu l'Esprit Saint de cette manière-là, qu'aujourd'hui, ça doit se passer comme ça également. Non. C'est pas ainsi qu'on voit le Saint-Esprit s'établir hein, dans la vie du croyant. Là, à ce moment-là, on a une manifestation particulière, une manifestation qui a servi de signe. Et d'ailleurs, c'est ce que Pierre va utiliser dans son discours, en parlant de la prophétie de Joël, et en liant cet événement à la prophétie de Joël. C'était un signe pour les Juifs, à ce moment-là, de voir l'accomplissement de la prophétie de Joël se réaliser devant leurs yeux. Donc ce n'est pas ainsi que nous devrions, hein, pour ceux qui attendent l'Esprit Saint, c'est pas ainsi que ça va se passer. Hein, Dieu, il avait un plan précis pour ce jour-là, un plan pour appeler son peuple à lui. Et donc l'Esprit Saint n'a pas été envoyé parce qu'ils étaient en train de prier, n'a pas été envoyé parce que ils attendaient patiemment ou parce qu'ils ont satisfait à certaines exigences spirituelles. Non, le récit de Luc n'indique comme cause de la venue de l'Esprit que voilà le moment choisi par Dieu pour que l'Esprit vienne et que l'Église naisse. Partout ailleurs dans le livre des Actes, les événements qui sont décrits ici ne se répètent pas. Il s'agissait d'un événement donc unique, spécifique, hein, pour que ces hommes pieux qui étaient venus à Jérusalem, eh bien, ils puissent voir la puissance de l'Esprit Saint et voir l'accomplissement de cette prophétie hein, de Joël. Mais la deuxième chose que nous devons également comprendre et noter ici par rapport à cette Église, tout d'abord, elle reposait sur la puissance de l'Esprit Saint, mais ensuite, elle proclamait fidèlement le message de l'Évangile. Elle a saisi ce moment spécifique pour prêcher l'Évangile, pour interpeller, pour appeler les âmes perdues à Christ. Alors ces événements extraordinaires, voilà, ça a eu pour but aussi donc de susciter cet étonnement. Hein, ils voient des gens parler dans leur propre langue, il y a de quoi être étonné, il y a de quoi être attiré, de se demander qu'est-ce qui se passe, il y a de quoi avoir toutes ces questions hein, qu'eux-mêmes avaient, comment est-ce qu'on les entend parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu? Ce que vous avez ici, ce n'est pas une campagne d'évangélisation, c'est la vie de l'Église. C'est l'objectif de l'Église, de proclamer le message de l'Évangile. Notez également qu'il y avait déjà des moqueurs. Il y avait déjà des gens qui, lorsque l'Évangile va être prêché, il va y avoir des gens qui vont dénigrer. Il y a des gens qui vont se moquer. Mais ça n'a pas empêché Pierre. Pierre, ici, rempli de l'Esprit Saint, va pas se faufiler comme il l'avait fait 50 jours auparavant, n'est-ce pas? Sous la direction de l'Esprit Saint, ici, Pierre va établir de manière logique et surtout de manière biblique, scripturaire, que celui qui a été crucifié par les Juifs, Jésus de Nazareth, il est le Messie de Dieu, celui que le Père a établi comme Seigneur, celui qui seul peut sauver parfaitement. Et dans la prédication de Pierre, et je sais qu'on n'a pas pris le temps de lire, hein, faute de temps, mais on a ici une prédication qui est quand même ciblée. On a une prédication qui est adaptée. Pierre, il sait à qui il s'adresse. Il sait ce que ces personnes ont besoin d'entendre pour qu'elles viennent à cette réflexion avec cette question « Homme, frère, que ferons-nous ?» Nous avons une prédication qui est alimentée de la puissance de l'Esprit Saint, un esprit de force, d'amour, de sagesse. C'est une prédication puissante, hein, malgré l'opposition et les moqueries. C'est une prédication qui a pour but de présenter Jésus-Christ, de l'exalter, lui qui a été crucifié, qui est ressuscité, et ainsi appeler les perdus à la repentance, afin de recevoir la grâce de Dieu. Grâce, comme Pierre le rappelle, qui est offerte à tous ceux qui répondent à cet appel de Dieu, ceux qui veulent la recevoir, hommes, femmes, enfants, mais selon les termes que Dieu a établis. Cette promesse de Dieu, du Messie, cette promesse du salut par l'œuvre du Messie, c'est ce à quoi Pierre appelle, eh bien, ces personnes à répondre favorablement. Et c'est une prédication qui a eu pour résultat de toucher profondément le cœur de ces personnes, n'est-ce pas? Parce qu'au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont pleinement pris conscience de « Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a crucifié le Messie qu'on attendait depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils sont profondément émus, touchés. Hein, le terme grec est employé ici n'apparaît que ici, dans le Nouveau Testament. C'est un terme qui désigne le fait d'être percé, le fait d'être poignardé. C'est décrit quelque chose de soudain, d'inattendu. Ils sont vraiment touchés au plus profond de leur être, au plus profond de leur âme. Que ferons-nous? Et la réponse de Pierre, elle est simple. Elle est claire, elle est précise. Elle est dans la lignée des discours de Christ. Repentez-vous! Dans la lignée du discours de son précurseur, Jean-Baptiste. Repentez-vous! Il prêchait le baptême de repentance, n'est-ce pas? La repentance, hein, c'est ce fait de faire demi-tour, de changer complètement, hein, d'optique, de perspective, d'objectif de vie. Repentez-vous pour que l'Éternel puisse ainsi transformer ces cœurs de pierre en cœurs de chair. Les cœurs de pierre, ils les ont vus là à Jérusalem. Ces cœurs de pierre qui ont crucifié le Seigneur, qui l'ont condamné injustement, qui l'ont accusé injustement. Voilà ces cœurs de pierre. Mais maintenant, là, ce jour de Pentecôte, l'Esprit Saint va être à l'œuvre pour transformer ces cœurs de pierre en cœur de chair. Et notez combien ici l'apôtre est animé d'un amour qui le presse à les conjurer. Il les exhorte à renoncer à cela. Il les exhorte à venir à Christ et à se sauver de cette génération perverse. Et c'est ce que l'on voit donc au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. Donc on a la prédication, on a une réaction. Mais Pierre, il ne va pas juste dire « Bon, c'est bon, j'ai fait mon travail. » Non, Pierre, il va dire « Vous voulez savoir quoi faire? Je vous encourage. Sauvez-vous. Sauvez-vous de cette génération. Venez à Christ. Il est le Messie. » Il insistait. Et ça, c'est dans la lignée aussi, hein, de ce que l'on voit dans le discours de Paul à Timothée. Prêche, insiste en toute occasion, favorable ou non. N'est-ce pas? Là, on a une situation plus ou moins favorable pour que l'évangile puisse être prêché. En continuant le livre des Actes, on voit qu'il y a eu plein d'occasions qui ont été défavorables, n'est-ce pas? Mais ici, Pierre manifeste cet amour pour ses frères qui sont perdus Il les incite, il les encourage, il les exhorte à renoncer au péché, à suivre Christ. Mais notez bien, en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse », il indique que c'est à eux de décider. C'est à eux de faire ce choix pour eux-mêmes. Et donc le résultat de cette prédication, de ce cinglant appel, de la prise de conscience de leur péché, de la compréhension de l'Évangile, amène ces hommes à la décision la plus importante de leur vie. Et là, ce que l'on voit, c'est que ils acceptèrent. Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole ». Donc ce n'est pas tout le monde. Parmi la foule qui était là, ce n'est pas tout le monde qui est venu au Seigneur. Mais ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Cette décision d'accepter la parole, cette décision de se repentir, les a amenés donc à croire en Jésus-Christ, à être pardonnés de leurs péchés, à être baptisés et d'être ajoutés à cette Église qui vient de naître. Alors permettez-moi juste de revenir ici sur ce que Pierre dit en Actes 2, 38, parce que beaucoup sont confus par rapport à ce que Pierre y dit. Beaucoup pensent, croient que le baptême fait partie du salut. Non, le baptême est une conséquence, une décision qui vient du salut. Lorsqu'il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de l'Esprit », il indique que ceux qui viennent de voir, de constater cette puissance manifestée de l'Esprit-Saint, elle ne peut être à eux que s'ils passent par la repentance. Et d'autres pensent « Il faut être aussi baptisé ». Le problème, c'est que quelques chapitres plus loin, dans Actes chapitre 10, on a un groupe de personnes à qui Pierre va également témoigner. Et on a ce groupe de personnes qui croient, qui a déjà reçu l'Esprit-Saint. Et Pierre dit, refuserons-nous le baptême à ceux qui ont déjà reçu l'Esprit? Donc ça indique que le baptême, ce n'est pas quelque chose qui est intégré au salut, qui est intégré au fait de recevoir l'Esprit-Saint, parce qu'on avait des personnes qui avaient déjà reçu l'Esprit-Saint, mais qui n'avaient pas été baptisées. Le baptême d'eau, d'immersion. Et ailleurs, on comprend bien que c'est par la foi que nous sommes sauvés, que c'est par la repentance. Et c'est cet acte-là, de cette décision-là, qui fait que nous sommes sauvés, et c'est à ce moment-là que l'Esprit-Saint est reçu. Là, Pierre, il dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, il faut bien comprendre que que le baptême ne fait pas partie du salut, deux, que le baptême n'est pas ce qui va enclencher la venue du Saint-Esprit. S'il enclenche la venue du Saint-Esprit, c'est avant toute chose le salut. Et donc cette vraie conversion que l'on voit dans le livre des Actes repose sur la repentance, cette décision de cœur suscitée par la foi. C'est ce que Paul rappelle, Romains 10, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, n'est-ce pas? Et partout ailleurs, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, on voit que c'est par la foi. Notez que, comme je l'ai dit, que cet Esprit-Saint donc vient au moment du salut, comme on voit dans Actes 10, 47, Pierre qui se demande, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors que là, on a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas été baptisées d'eau. Okay? Donc, il faut bien comprendre ces choses-là, que un, le salut, c'est par la foi, que c'est à ce moment-là que l'Esprit vient s'établir dans la vie du croyant, que le baptême suit la conversion, c'est une manifestation, c'est un témoignage de ce qui vient de se produire spirituellement, c'est un symbole invisible de ce qui s'est produit spirituellement. Donc on a une Église qui est donc alimentée par la puissance de l'Esprit-Saint, on a une Église qui fidèlement donc prêche l'Évangile, et puis on a une Église qui va influencer spirituellement. Et j'insiste bien là-dessus. Parce que nous avons beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens qui se sont dispersés à chercher à influencer le monde autrement que spirituellement. Dès lors que des âmes furent sauvées et baptisées, elles furent ajoutées à l'Église de Jésus-Christ, et le fait même qu'on précise hein, combien ils étaient suggère qu'il y avait quelqu'un qui s'est amusé à compter, il y a quelqu'un qui a pris des notes, il y a quelqu'un qui a dit c'est important de savoir qui a été ajouté, qui fait partie de cette Église, qui a confessé ses péchés et a été baptisé. L'influence de cette Église de Jérusalem, elle est incontestable. Elle fait partie de notre histoire, c'est le début de notre histoire. Dès la Pentecôte et la naissance de l'Église, donc le monde a changé. Et l'influence que cette Église a eue, encore une fois, n'a été possible parce qu'elle a été alimentée par l'Esprit-Saint. Lors de son ministère terrestre, le Seigneur, il nous a dit qu'il était la lumière du monde, n'est-ce pas? Nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu le Fils, venu dans ce monde, venu chez les siens, n'est-ce pas? Mais de manière temporaire. Mais dès la Pentecôte, tout change. Tout chrétien né de nouveau, eh bien maintenant c'est à lui d'être une lumière, c'est à lui d'être un flambeau. L'Église qui réunit les chrétiens est à son tour cette lumière dans les ténèbres. Et maintenant, Dieu n'est plus parmi les siens, il est en chacun d'eux. Et alors là, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de bouleversant, n'est-ce pas? Parce que la promesse de Christ, cette promesse du Consolateur, c'est une promesse qui est permanente. Ce n'est plus quelque chose de temporaire où Jésus, il était là pendant quelque temps parmi les hommes. On a maintenant la présence de Dieu directement dans la vie du croyant. Il est associé au croyant. Et le témoignage de cette assemblée, nous le voyons donc à partir du verset 42, ils ont persévéré. Persévérer dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Hein, souvenez bien ça. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient, verset 45, leurs propriétés, leurs biens, ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ce n'était pas juste quelque chose de ponctuel. L'influence de cette Église, elle a continué. L'influence de cette Église a été une influence spirituelle. Ils persévéraient hein, dans l'enseignement des apôtres, de ceux que Christ lui-même a appelés et a établis, de ceux qui ont reçu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui ont donné leur vie entière à Christ et pour son Église, hein, sur laquelle elle fut établie. Hein, Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Aucune église ne va pouvoir avoir d'influence spirituelle, ne va pouvoir vraiment avoir un impact et bouleverser les choses sans être attachée à la parole de Dieu. Parce que là, c'est la première chose dans laquelle il persévérait. L'enseignement des apôtres. L'enseignement de ce que les apôtres avaient reçu de Christ. Sans être attachée à la parole de Dieu, sans être déterminé à suivre la parole de Dieu, à la vivre, sans être déterminé à exemplifier Christ dans toute sa sainteté, sa justice, son amour et sa grâce, nous ne pourrons pas avoir une telle influence. Christ avait dit dans Jean chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous demeurez dans ma parole. C'est-à-dire que si vous la suivez, que vous la vivez, qu'elle fait partie intégrante de votre vie, ben là, vous montrez que vous êtes mes disciples. Il persévérait donc dans l'enseignement, il persévérait aussi dans l'amour, hein, dans la communion fraternelle, il persévérait hein, à s'exhorter mutuellement, à s'exhorter et s'encourager à la sainteté, à la fidélité, il persévérait dans la commémoration hein, du Sauveur, dans la fraction du pain, de son sacrifice, hein, qui est symbolisé hein, par le repas du Seigneur. Il persévérait dans la prière. Et je veux vraiment qu'on insiste sur cela. Il persévérait dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que les apôtres, les disciples, les 120, faisaient dans l'attente du Saint-Esprit. Ils persévéraient dans la prière. Je crois que nous ne pouvons pas être une église qui va influencer, qui va amener des âmes à Christ, si nous n'avons pas déjà une église qui persévère dans la prière. Si nous ne sommes pas des chrétiens qui persévèrent dans la prière. C'est une église aussi qui craignait Dieu, n'est-ce pas? Parce que on voit au verset 43, pardon, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Cette crainte dont il est question ici, c'est ce sentiment de révérence vis-à-vis de Dieu. C'est lorsque on a conscience que Dieu est là, que Dieu est présent. On le voit agir ici de manière extraordinaire, certes par des prodiges et des miracles que les apôtres ont accomplis, mais ils sont conscients que Dieu est là. Persévérer également dans la manifestation de l'amour en Christ, dans cet élan de partage, et là encore, je tiens à préciser que ici on n'a pas une prescription pour une ordonnance, si vous voulez, pour l'Église, que maintenant, on doit faire ça, on doit tous vendre tout ce qu'on a et mettre ça en commun et puis répartir cela selon les besoins. On est dans une situation particulière ici. On voit ici une Église qui est en train de naître. On sait que le Christ, celui que maintenant ils ont reconnu comme le Messie, il a quand même été crucifié par le peuple à Jérusalem. Et donc, ils savent qu'ils sont dans une situation où eh bien, tout peut arriver du jour au lendemain. Ils peuvent être persécutés, se faire arrêter, être mis à mort. Ils sont vraisemblablement aussi dans l'attente du retour de Christ. Et je pense que ça aussi, ça a alimenté ce désir de « voilà, on va mettre les choses en commun jusqu'à ce que le Christ revienne ». Mais bien plus tard, ils ont compris que bon, c'est pas pour tout de suite que le Seigneur vient, mais on va devoir agir, on va devoir faire les choses. Mais ce que je tiens à souligner surtout ici, c'est que ils étaient conscients des besoins des uns et des autres. Et ils ont agi avec justice et avec amour en remarquant, tiens, ce frère, il a des besoins et on va aider ça. On va se mettre ensemble, on va s'unir. Et beaucoup ont ce concept un peu tordu de dire, oh, c'est du communisme. Non, c'est pas du communisme. C'est une communauté, c'est pas la même chose. Parce qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Ils sont pas là pour essayer de prendre soin de tous les autres. Ils sont là pour prendre soin d'eux-mêmes. Parce qu'on a ici quelque chose d'unique. On a une église, on a un corps, on a une famille. Et c'est ainsi qu'il faut voir cela. C'est que cet amour pour Christ, c'est ce qui les a animés à vouloir prendre soin les uns des autres. Et donc cette église qui craignait Dieu, qui a été amenée à agir et à avoir cette influence en son sein, a également continué d'avoir une influence en dehors, n'est-ce pas? Parce que c'est une église qui, bien, finalement, bien, chaque jour, ils allaient se rencontrer. Chaque jour, ils allaient se voir. Chaque jour, ils allaient s'encourager les uns les autres. Chaque jour, même, ils étaient assidus au temple. Et au temple, eh bien, par leur témoignage, peut-être par leur chant, eh bien, ça interpellait d'autres qui étaient là. Et on voit effectivement que, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour. C'est-à-dire que l'influence qu'ils ont eue, elle ne s'est pas arrêtée juste à être une influence pour eux-mêmes dans l'église. C'était une influence spirituelle qui s'est propagée à l'extérieur également. Et donc, par cela, et par l'amour qui a régné dans cette église, par le fait de prendre soin des uns des autres, eh bien, effectivement, ils trouvaient grâce. Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Parce qu'on a un témoignage qui est vivant. On a un témoignage qui est le résultat de l'œuvre de l'Esprit-Saint dans la vie d'un croyant qui laisse l'Esprit-Saint agir dans sa vie, qui se soumet à la volonté de Dieu, qui suit la parole de Dieu, a trouvé grâce auprès de tout le peuple parce qu'ils pouvaient constater la réalité de ce salut dans leur vie. Et c'est ainsi que cette église de Jérusalem est née. C'est ainsi que cette église de Jérusalem, elle a continué de grandir, grandir en nombre, mais grandir spirituellement. C'est ainsi que cette église de Jérusalem, eh bien, était dans la joie, hein. Chaque jour, ils partageaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je crois que bien trop souvent, le problème de beaucoup d'églises, c'est d'avoir compliqué tellement les choses. De revenir à la simplicité de l'Évangile, à la simplicité de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. De retrouver cette joie en lui, de retrouver cette unité, cette communion les uns avec les autres. Et de, ensemble, avoir cette influence, une réelle influence, une influence qui agit pour l'éternité, qui agit pas de manière temporaire juste pour que les gens disent « Ah, mais ces chrétiens, ce sont des bonnes personnes. » C'est pas ça l'objectif. L'objectif pour nous avant tout, c'est de glorifier Dieu, de le laisser agir dans notre vie, et que, en le laissant ainsi agir dans notre vie, nous soyons soumis à sa volonté, et que nous fassions les choses qu'il nous a demandé de faire, et que nous soyons donc les témoins de sa grâce, les témoins de son amour, et que par ce témoignage-là, par la prédication de l'Évangile, par le partage de l'Évangile, il y ait des âmes qui viennent à Christ. Parce qu'à quoi ça sert? À quoi ça sert que les gens nous aiment bien? S'ils ne connaissent jamais Jésus-Christ. À quoi ça sert d'être bien vu des hommes s'ils ne viennent pas à Christ? Donc, il faut bien comprendre que notre sphère d'influence, elle est spirituelle. Ça ne veut pas dire que le fait d'aller prendre soin des démunis, des pauvres, ce sont des mauvaises choses. Non. Mais il faut garder cet objectif prioritaire de l'Évangile et d'être une église qui soit influente spirituellement. Donc pour conclure, ce portrait que nous voyons ici dans les Écritures, ce portrait de cette première église, de cette première assemblée, eh bien, on a une église qui s'est reposée sur la puissance de l'Esprit-Saint, qui a proclamé l'Évangile fidèlement, et qui a influencé les siens, et puis finalement influencé ceux du dehors, mais spirituellement. Et je crois que s'il y a un objectif que nous devons vraiment chercher à poursuivre en tant que l'Église, eh bien c'est cela. Et quand nous sommes attachés à cela, et quand nous sommes fidèles à cela, eh bien nous honorons la raison pour laquelle Christ a donné l'Église. Nous honorons la raison pour laquelle Christ est mort et ressuscité. Nous honorons Christ, eh bien, en partageant avec les autres qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Donc voilà, j'espère que ce matin, ce que nous avons pu voir dans la parole de Dieu, et je sais qu'on aurait pu prendre encore beaucoup plus de temps et d'aller beaucoup plus en détail dans beaucoup de ces versets-là, mais voilà, c'est juste pour nous rappeler à ce que représente ce jour de Pentecôte pour nous, ce jour où Dieu a accompli ses promesses de l'Église, de l'Esprit-Saint, et qui a appelé en dehors de ce monde ses enfants à être unis autour de lui, autour de sa parole, et d'agir avec fidélité, en nous reposant sur sa parole, sur la puissance de l'Esprit-Saint, et d'avoir cette influence, n'est-ce pas? Prions.